Astrid Vedland, bonjour. Vous êtes bonjour. L'auteur du livre intitulé « Le luxe à la conquête du monde » paru aux éditions Mistweed, dont nous nous sommes déjà fait l'écho. Journaliste, vous avez notamment dirigé pendant plus de 10 ans la rubrique luxe de l'agence Reuters à Paris. À l'issue de 4 ans d'enquête et de centaines d'interviews, vous apportez de précieuses réponses à la question « Comment l'industrie du luxe et de la mode quasi inexistante il y a 40 ans est devenue une puissance mondiale ? Votre livre rejoint l'actualité luxe de la semaine. Pressentiez-vous la possible acquisition du célèbre joaillier américain Tiffany & Co. par LVMH, la plus importante acquisition dans l'histoire du groupe ?
Oui, la réponse est très courte. Vous savez, l'un des meilleurs best-sellers chez Louis Vuitton, c'est un sac qui s'appelle Neverfull. Et je pense que c'est une excellente allégorie pour comprendre Bernard Arnault et son groupe LVMH. C'est-à-dire que leur sac est Neverfull, il n'est jamais rempli. Et des marques comme ça, historiques, iconiques, avec une histoire, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et Bernard Arnault est un très très bon stratège financier. Et aujourd'hui, le prix de la dette est presque nul. Donc, pour lui, 16 milliards de dollars, c'est rien quand on pense que la capitalisation boursière d'LVMH est de 250 milliards. LVMH a fait un très très bon retournement avec Bulgari, qu'ils ont acheté en 2011. Ils ont doublé le chiffre d'affaires, ils ont vraiment remonté en gamme le bijoutier romain. Et LVMH est toujours à l'affût donc d'acquisitions prestigieuses. Et surtout, ça va changer la donne parce que maintenant, LVMH est vraiment le plus grand groupe aussi dans la bijouterie. Et donc, ça va changer la dynamique au sein des grands groupes parce que maintenant, ils sont plus gros que Richemont, qui est le propriétaire de Cartier, Van Cleef, et qui d'ailleurs récemment a fait l'acquisition du bijoutier italien Buccellati. Donc je pense que pour Richemont, ça va vraiment être un peu un réveil, et ils vont devoir aussi mettre les bouchées doubles parce que Tiffany va venir dans leur territoire de tout ce qu'on appelle la joaillerie accessible. Le cash de Cartier se fait surtout avec les collections Love et Justin Clou et Trinity. Et Tiffany est aussi un petit peu dans ce même segment de bijoux que l'on peut s'offrir, c'est-à-dire avec une marque très très connue. Et je pense que LVMH va faire remonter en gamme Tiffany et donc va peut-être prendre des parts de marché à Cartier s'ils ne font rien.
Dirigé de main de maître par le milliardaire Bernard Arnault, ce dernier apparaît comme un homme plus secret, moins original, presque moins sympa que d'autres, trop pragmatique peut-être ?
Non, je pense qu'Arnault est un visionnaire. Il n'a peut-être pas les qualités humaines que l'on voudrait trouver dans un leader, mais il est extrêmement respecté, admiré par ses équipes. Et c'est une très très belle opération avec Tiffany qui va vraiment bousculer le monde un peu secret et un peu condescendant aussi de la joaillerie. Je pense que ses concurrents vont devoir se réveiller.
Alors, parmi tous les personnages qu'il vous a été possible de rencontrer et qui ont marqué l'univers du luxe et de la mode, qu'on retrouve dans votre livre, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué et, je n'hésiterai pas à dire, étonné ?
Pour moi, le plus grand, c'est Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld avait vraiment tout compris au luxe et c'est pour ça que j'ai commencé mon livre par lui, parce que grâce à lui, on comprend vraiment l'essence même de cette industrie qui est de faire rêver, d'éblouir, vraiment qui fait appel à tout notre côté irrationnel. Karl demandait l'impossible et il l'obtenait. Donc je pense que Karl Lagerfeld vraiment est une figure qui est irremplaçable. D'ailleurs, la question se pose sur ce qui va devenir de Chanel après lui. Pour l'instant, ils ont une nouvelle créatrice qui était le bras droit de Karl, Karine Diaz, qui a pris le relais. Combien de temps il durera, on verra.
Astrid Vendland, bien sûr, on pourrait parler de Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, Ralph Toledano, qui est le PDG de la maison britannique Victoria Beckham, mais également président de la Fédération de la mode et de la haute couture. Mais d'autres noms sont moins connus en dépit de leur rôle majeur. Je pense à Dominique Perrin, Jean-Louis Dumas et Yves Carcel.
Là, ce sont vraiment les pionniers. J'ai voulu, dans ce livre, faire un travail aussi de... C'est-à-dire que c'est un devoir de mémoire, car les empires que sont Hermès, Cartier et Louis Vuitton ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas les hommes derrière que sont donc Alain-Dominique Perrin, Jean-Louis Dumas et Yves Carcel. Et quand on lit leur histoire, eh bien, on comprend qu'il ne faut pas juste des beaux produits et une belle histoire, il faut aussi un leader. Et l'un des messages du livre, c'est que ce qui est important, c'est pas la marque ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez, c'est l'homme ou la femme pour laquelle vous travaillez. Est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce qu'elle va sortir ou lui va sortir le meilleur de vous-même? Donc voilà, c'est l'un des messages qui transcendent le livre.
Alors on pourrait aussi parler de José Neves, un homme qui a très vite compris l'importance du e-commerce. Mais il y a une question qui se pose, quid de la féminisation à la tête d'entreprises du luxe et de la mode?
Eh bien, c'est un processus qui est en train de gagner de l'ampleur, car aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'inclusivité. Je pense que les groupes de luxe se sont donnés comme ambition de féminiser les hauts échelons de leur management, et de plus en plus, ils donnent des positions très très seniors aux femmes. C'est un processus qui va s'accélérer. Mais on n'en est qu'au début. Il n'y a pas encore, d'équivalent d'Yves Cartel, Alain-Dominique Perrin ou de Jean-Louis Dumas à la tête d'une grande marque luxe. Mais il y a quand même la directrice de Céline est une femme. Il y a quand même la directrice de Yves Saint Laurent aussi. Donc voilà, ça commence.
Astrid Wendland, on ne peut cacher que l'univers du luxe emploie beaucoup de petites mains. On n'est pas millionnaire non plus en travaillant à de hauts niveaux dans l'univers du luxe. C'est ça qu'on observe en lisant votre livre.
D'ailleurs, beaucoup de gens sont payés le SMIC. D'ailleurs, l'autre soir, j'ai rencontré une fille qui faisait des malles chez Louis Vuitton. Elle est payée 1 300 € par mois. Et ils trouvent ça normal. Et Louis Vuitton est l'entreprise qui fait le plus de profits, en tout cas en France. C'est l'une des, vraiment des entreprises les plus profitables, je dirais, au monde.
Pensez-vous que la nouvelle génération saura reprendre le flambeau et que le génie de la création dans le luxe est fait pour à la fois durer, mais surtout s'enrichir toujours plus?
Oui, je pense que, comme on dit en anglais, the sky is the limit. Et je pense que les jeunes se ruent sur les postes dans l'industrie du luxe et de la mode parce que c'est devenu d'abord l'une des industries les plus puissantes au monde et qui crée quand même des milliers, des millions de jobs aussi à travers le monde. Donc les jeunes se ruent là-dessus, mais je pense qu'il y a une différence avec la génération d'il y a 20 ans. Les jeunes ne veulent plus travailler nuit et jour, week-end inclus, etc. Tout ça pour avoir un bonus. Ils veulent avoir des vacances, ils veulent voyager, poster des photos sur Facebook et Instagram, avoir des likes, etc. Donc oui, ils veulent travailler, mais pas comme il y a 20 ans. Donc ça, c'est une différence aussi. L'autre différence, c'est que je pense que j'ai décrit dans mon livre, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui, sous prétexte qu'elles fabriquent du rêve, eh bien, se permettent de traiter leur staff parfois avec une certaine condescendance, voire violence. Et aujourd'hui, eh bien, ça devient de moins en moins possible aussi parce que le climat de peur que l'on peut sentir dans quelques environnements, comme d'ailleurs celui d'LVMH, eh bien, il va falloir qu'ils réfléchissent à cela parce que ça tue la créativité. On n'est pas créatif quand on a peur. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience de cela, mais ça va mettre du temps parce que les mentalités ne changent pas comme ça en une nuit.
Astrid Wendland, c'est bientôt Noël. À choisir entre un magnifique bijou qui embellit le cou des femmes ou des actions LVMH dont la valeur a de quoi séduire femmes et hommes, que choisiriez-vous?
Ça dépend, je ne sais pas. Parce que d'abord, comme je suis journaliste, je ne peux pas vraiment donner d'opinion sur les actions. Moi, je pense que les actions LVMH sont déjà bien valorisées. Et un bijou, eh bien, ça a une valeur aussi liquide. C'est-à-dire que si vous achetez un bijou de marque, eh bien, c'est pas perdu. Vous pourrez toujours le revendre. Et en plus, s'il est rare, il pourrait gagner de la valeur. Je pense qu'un bijou, on peut le porter. Une action LVMH, c'est plus difficile.
Alors, dans votre livre, vous évoquez le luxe côté création vestimentaire et accessoires en tout genre, maroquinerie, parfum, etc. En revanche, vous ne parlez que peu de champagne, un produit de luxe aussi. Vous êtes contre les bulles spéculatives?
Non, absolument pas. C'est juste qu'il fallait faire un choix. Parce que le luxe, aujourd'hui, dans plusieurs domaines, évidemment, il y a les vins et spiritueux, mais il y a aussi les hôtels, etc. J'en parle un petit peu quand je parle de l'acquisition d'LVMH du groupe Belmont, qui est à l'Orient Express, et des hôtels mythiques comme le Capri. Donc, je n'exclus pas ces industries, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire un choix et on ne peut pas non plus faire description exhaustive de toute l'industrie, parce que là, il faudrait vraiment une encyclopédie. Or, ce n'était pas du tout le but de ce livre.
Astrid Wendland, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Women in Life. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le luxe à la conquête du monde, paru aux éditions Listwood.
Merci beaucoup.